Vous écoutez, on lit pour vous.
Trouble de l'attention, les adultes sortent de l'ombre. Un texte de Laurence Niozzi, paru le 17 octobre 2024 dans Québec Science. Pendant longtemps, le trouble de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH, a été un diagnostic réservé aux enfants et aux ados. Aujourd'hui, les diagnostics et les traitements par stimulants explosent chez les adultes. En 2020, en lisant le rapport d'évaluation de son fils de 6 ans, qui avait reçu un diagnostic de TDAH, Julie Lafontaine a eu une sorte de révélation. Se pouvait-il qu'elle présente le même trouble que son garçon impulsif et hyperactif? Depuis des années, elle était taraudée par une tonne de questionnements. Mère et partenaire épanouie, avec une carrière stable en design intérieur, Julie s'était pourtant toujours sentie différente. Difficulté à finir ses travaux, problèmes d'attention, de planification. Elle avait l'impression de ne pas pouvoir atteindre son plein potentiel. Et elle était constamment épuisée. J'arrivais au même résultat que les autres, mais mon chemin prenait plein de détours. Je devais compenser tout le temps, raconte la mère de deux jeunes enfants. Puis, les événements se sont précipités. La pandémie et un changement d'emploi malheureux, suivi d'un arrêt de travail. Je n'étais plus capable de gérer toute cette anxiété, dit-elle. En septembre 2024, soit 3 ans après l'évaluation neuropsychologique de son fils, Julie a reçu à son tour le diagnostic de TDAH. À 44 ans, elle s'est enfin sentie validée. Loin d'être juste étourdie ou distraite, elle subit en fait les conséquences de ce trouble du neurodéveloppement qui associe, selon des combinaisons variables, un déficit de l'attention, une hyperactivité motrice et une impulsivité marquée. Les causes précises ne sont pas connues, mais on estime l'irritabilité du trouble à environ 75%. Souvent associé aux garçons hyperactifs, le TDAH est longtemps passé sous le radar chez les plus vieux. Il toucherait pourtant 2,5% des adultes et 5,9% des jeunes, selon la déclaration de consensus international de la Fédération mondiale du TDAH, publiée en 2021 et fondée sur plusieurs méta-analyses. En fait, il a longtemps été estimé que les troubles s'amenuisaient, voire se normalisaient avec l'âge. Ce n'est vrai que dans la moitié des cas environ, lorsque le cerveau parvient à rattraper ou à compenser son retard de maturation. Mais depuis que les médecins ont pris conscience du fait que le trouble pouvait persister, ici comme ailleurs, le nombre de diagnostics et de prescriptions du médicament pour traiter le TDAH chez les adultes augmente de façon vertigineuse. Ainsi, la prévalence reconnue du TDAH dans la population américaine adulte a augmenté de 123% entre 2007 et 2016, et les diagnostics chez les adultes ont augmenté 4 fois plus rapidement que les diagnostics chez les enfants, selon une étude de 2019 publiée dans JAMA Network Open. Chez nous, la Régie de l'assurance maladie du Québec, RAMQ, a remboursé des médicaments pour traiter le TDAH à 79 040 adultes en 2023, comparativement à 59 142 en 2019, soit une augmentation de 34%. Il s'agit notamment du Ritalin ou de l'Adderall, des psychostimulants à base de méthylphénidate et d'amphétamine respectivement. Aux États-Unis, les prescriptions de cette classe de médicaments ont bondi de 30% chez les adultes de 20 à 39 ans, pendant la pandémie de COVID-19, selon une étude publiée par JAMA Psychiatry en 2024, réalisée par des épidémiologistes affiliés à la Food and Drug Administration. Dans un sondage mené en 2021 par un magazine spécialisé dans le TDAH, Attitude trois quarts des adultes, ayant nouvellement reçu un diagnostic, affirmaient y avoir été incités par la pandémie. Parmi les facteurs évoqués, anxiété liée au virus et aux mesures de confinement, travail de la maison avec nouvelles sources de distraction et temps accru passé sur les médias sociaux. Les femmes oubliées. Les chiffres sont particulièrement frappants chez les femmes. Aux États-Unis, le nombre de femmes âgées de 22 à 49 ans auxquelles a été diagnostiqué un TDAH a doublé de 2020 à 2022, révélait en mars 2023 une étude d'EPIC Research, une organisation américaine qui analyse les données des dossiers médicaux électroniques. Elle a examiné plus de 3 millions de dossiers dans tout le pays. Chez les femmes, les symptômes d'inattention sont souvent prédominants. L'hyperactivité est moins flagrante. Moins agitées ou oppositionnelles que les garçons, moins obstineuses, les filles et les femmes avec un TDAH fonctionnent mieux, donc elles sont moins envoyées en clinique, souligne Marie-Claude Gay, professeure au département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal. Souvent, le diagnostic les rattrape à l'âge adulte, quand elles doivent composer avec les responsabilités qui s'accumulent. Emploi, charge mentale liée aux tâches du quotidien et aux enfants. Les femmes font alors plusieurs choses à la fois, des activités qui nécessitent une attention partagée. C'est à ce moment que les exigences deviennent élevées et qu'on dépiste leur TDAH. Pendant une grande partie de leur vie avant le diagnostic, elles ne vont donc pas recevoir les services auxquels elles ont droit, souligne celle qui est aussi neuropsychologue au Centre de psychologie MC Gay. Auparavant, les cohortes de recherche comprenaient au mieux un nombre infime de filles et de femmes, et ce n'est que dans la dernière décennie que la communauté scientifique s'est intéressée à ces patientes. Ce qui a permis des avancées considérables, notamment sur l'incidence du cycle hormonal sur les symptômes du TDAH. Ainsi, les règles, le postpartum ou la ménopause peuvent exacerber les symptômes du TDAH et même diminuer l'efficacité des médicaments. Le diagnostic facile? Désormais mieux connu du corps médical, le TDAH de l'adulte est davantage mis en avant dans la sphère publique, y compris sur les réseaux sociaux. Et comme presque tout le monde présente à divers degrés et divers moments des symptômes évoquant un TDAH, il n'en faut pas plus pour sauter un peu vite aux conclusions. La psychiatre Annick Vincent, spécialiste québécoise du TDAH chez l'adulte, a aussi constaté l'effet accélérateur de la pandémie et son bombardement de stimuli. Des personnes se sont fatiguées, n'arrivaient plus à compenser leurs symptômes. On a vu des gens qui avaient des symptômes ressemblant à ceux du TDAH et d'autres avec un véritable TDAH, souligne-t-elle. Certains d'entre eux ont fait un autodiagnostic sur Internet. Sur le réseau TikTok, le contenu portant sur le TDAH, ADHD en anglais, comme sur d'autres troubles et pathologies, abonde. Le mot « clic », hashtag ADHD, recueille des milliards de vues. Les contenus de ce type peuvent sensibiliser le grand public et réduire la stigmatisation liée au TDAH, mais ils peuvent aussi mal informer, voire désinformer. Une étude de la Revue canadienne de psychiatrie, réalisée en 2022, révélait que 52% des vidéos analysées sous le mot « clic » hashtag TDAH sur la plateforme étaient trompeuses ou non fondées sur des preuves scientifiques. Des adultes qui ont fait un auto-diagnostic de TDAH après avoir vu des contenus sur Internet, le neuropsychologue Benoît Hammerenger en voit défiler beaucoup dans sa clinique privée. Ils viennent y chercher un diagnostic officiel, qu'ils n'obtiennent pas nécessairement, explique le clinicien, qui vulgarise des questions liées à la santé mentale sur son propre compte TikTok. Vous écoutez troubles de l'attention, les adultes sortent de l'ombre », un texte de Laurence Niozzi, paru le 17 octobre 2024 dans Québec Science. Il y a quelque chose de cool à évoquer un TDAH. Ah, j'ai encore oublié mes lunettes, ça doit être mon TDAH. Ça donne une couleur, un trait, ça fait un peu cute. Alors que les personnes avec un vrai TDAH ont une réelle détresse et que ça crée des situations de handicap, souligne-t-il. N'empêche qu'il serait réducteur de penser que le TDAH est une mode. Si le TDAH chez l'adulte est davantage diagnostiqué aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une forme de rattrapage, affirme la psychiatre Annick Vincent, spécialiste du trouble depuis plus de 25 ans. Dans mes cours de médecine, dans les années 1980, on ne parlait pas de TDAH chez l'adulte, ça n'existait pas, fait remarquer la médecin, qui ajoute que le surdiagnostic existe, mais que le sous-diagnostic est aussi une réalité chez l'adulte. Et pour cause. Le diagnostic n'est pas toujours simple à établir. Le TDAH présente des symptômes apparentés à d'autres troubles comme l'anxiété ou la dépression. Le diagnostic est d'autant plus complexe que ces divers troubles coexistent souvent chez une même personne. Heureusement, les critères diagnostiques sont de mieux en mieux balisés grâce à la publication, en 2013, du DSM-5, la cinquième édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Cette bible des psychiatres a intégré pour la première fois les symptômes du TDAH chez l'adulte. Ainsi, pour qu'un adulte reçoive le diagnostic, un certain nombre de symptômes persistants doivent être présents depuis l'enfance dans au moins deux contextes différents, à la maison et au travail, par exemple, et doivent perturber considérablement le fonctionnement. Ça fait seulement 10 ans que cette nomenclature commune existe, rappelle Marie-Claude Gay. Depuis, beaucoup de recherches ont été menées chez l'adulte. Il y a plus d'outils d'évaluation, plus de psychologues et de professionnels qui ont suivi des formations pour faire des évaluations plus rigoureuses. Mais il y a encore du pain sur la planche. Des spécialistes reprochent notamment au manuel de référence ces critères trop vagues pour définir le TDAH chez les adultes. Des symptômes communs propres aux adultes, comme la dysrégulation des émotions ou les prises de décisions impulsives, ne sont pas explicitement nommés. Il existe aussi une incertitude sur un point clé. Le TDAH est-il forcément présent avant 12 ans ou peut-il apparaître au cours de l'adolescence, voire plus tard? La question est controversée, mais plusieurs psychiatres jugent ce seuil de 12 ans arbitraire. Des publications récentes indiquent que certains adultes pourraient développer un TDAH sans avoir eu de symptômes précurseurs clairs dans l'enfance. Afin d'uniformiser le processus diagnostique, qui ne repose que sur des symptômes comportementaux et non sur des marqueurs biologiques, des spécialistes du trouble de l'attention aux États-Unis tentent d'établir des lignes directrices spécifiques à l'adulte dans un nouveau guide plus complet. Ce guide risque de changer la donne, estime Martin Gignac, psychiatre pour enfants et adolescents à l'Institut Philippe Pinel de Montréal et ancien chef de la division de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du département de psychiatrie de l'Université McGill. Il va y avoir un effet d'entraînement ailleurs dans le monde. Et ça va permettre d'uniformiser la reconnaissance du trouble et les interventions nécessaires, croit celui qui est aussi président de l'Alliance canadienne des ressources pour le TDAH. L'organisme publie d'ailleurs ses propres lignes directrices pour les enfants et adultes, auxquelles se réfèrent généralement les médecins du pays. Des conséquences dans le quotidien. Pour ce qui est du traitement, on manque encore de données chez l'adulte. Les molécules les plus efficaces ne sont pas les mêmes à tous les âges. Et il y a parfois une réticence à prescrire des psychostimulants. Ainsi, au Québec, dans les dernières années, des pédiatres ont sonné l'alarme sur le traitement du TDAH chez les jeunes, déplorant une augmentation inquiétante de prescriptions de psychostimulants. Une commission parlementaire a recommandé en 2020 de mieux encadrer le diagnostic et la prescription de médicaments. Dans ce contexte, l'augmentation des prescriptions dans l'ensemble de la population, alimentée par le flot d'adultes ayant nouvellement reçu un diagnostic, peut donc laisser perplexe. Malgré tout, ne pas traiter le TDAH, ce n'est pas anodin, souligne Martin Gignac. Ces personnes ont en effet un parcours de vie souvent chaotique dans les sphères tant scolaires et familiales que professionnelles et sociales. Les études montrent qu'elles sont exposées à un risque accru de dépression, de grossesse non planifiée, de tentative de suicide. Les automobilistes TDAH sont 3 fois plus à risque d'avoir un accident que la population générale. Et les adultes TDAH sont surreprésentés dans la population carcérale. Sachant tout ça, c'est sûr qu'on est plus interventionniste qu'il y a 10 ou 20 ans, souligne la psychiatre Annick Vincent. On peut se tromper et diagnostiquer un TDAH alors qu'il n'y en a pas, mais le contraire, ne pas reconnaître le trouble, est grave aussi, poursuit-elle. La médecin déplore néanmoins le manque de traitement non pharmacologique du TDAH, celui-ci nécessitant un suivi multimodal. Ce n'est pas le nombre de pilules prescrites par les médecins qui est choquant. C'est l'absence de suivi psychosociaux, avance-t-elle. Le recours à divers services, thérapie cognitive et comportementale ou encore intervention psychoéducative avec des travailleuses et travailleurs sociaux ou des ergothérapeutes, peut représenter un véritable parcours du combattant alors qu'ils peuvent faciliter le quotidien. Julie Lafontaine, elle, affirme que le diagnostic puis les médicaments ont changé sa vie. Du moins, ils ont facilité son récent retour aux études. Aux prises avec des difficultés d'attention depuis l'enfance, elle peut maintenant écrire des dissertations entières à l'université. Je vis plus dans l'instant présent. Avant, j'appréhendais plein de trucs. Ça m'enlève beaucoup d'anxiété et ça m'a donné envie de me faire confiance. C'était « Troubles de l'attention, les adultes sortent de l'ombre », un texte de Laurence Niozzi, paru le 17 octobre 2024 dans Québec Science.
Jeunes, privilégiés et philanthropes. Un texte d'Émilie Lapierre, paru le 13 novembre 2024 dans La Presse. Entrepreneur passionné de 27 ans, William Plamondon est président du CA des Jeunes Philanthropes du Québec depuis 2021. Pourquoi s'implique-t-il en philanthropie? Pour offrir un monde meilleur aux prochaines générations. Rien de moins. Le parcours du fondateur de l'entreprise Relève en Force est à tout le moins atypique. Citation : J'ai eu une adolescence difficile, admet-il. J'ai fait 7 écoles secondaires. J'ai passé 1 an dans un centre jeunesse, j'avais des problèmes de comportement. Fin de citation. Il ajoute que s'il a réussi à devenir l'entrepreneur et la personne qu'il est aujourd'hui, c'est parce que plusieurs personnes et organismes l'ont aidé quand il en avait besoin. Citation. Aujourd'hui, je me sens privilégié. C'est donc à mon tour de redonner à la communauté. Fin de citation. Le jeune philanthrope ne compte pas ses heures quand vient le temps de s'impliquer. Dans les périodes achalandées, il peut consacrer jusqu'à 10 heures par semaine aux causes qui lui tiennent à cœur, ce qui ne l'empêche pas de donner aussi de l'argent. Citation. En 2024, j'ai donné 10 000 $, dit-il. J'ai aussi signé le manifeste des Charitables, un nouveau mouvement pour les philanthropes à Québec. Je me suis ainsi engagé à remettre 5 % de mes revenus personnels annuels en dons de charité. Fin de citation. Les jeunes philanthropes du Québec ont pour leur part soutenu en 2024 le diplôme avant la médaille, un organisme qui encourage la persévérance scolaire grâce au sport dans les écoles. Citation. C'est une mission que je trouve incroyable d'encourager la nouvelle génération à réussir. Fin de citation. L'avenir appartient aux jeunes. S'impliquer de la sorte apporte énormément à William Plamondon. Citation. Pour moi, c'est très valorisant. C'est la joie d'aider les gens et de sentir qu'on fait une vraie différence dans leur vie. J'ai une entreprise et ça va bien, mais le projet qui me fait le plus triper est celui avec lequel je ne fais pas d'argent. Les jeunes philanthropes. Je pense que l'avenir repose entre les mains des prochaines générations. Je veux inciter les jeunes à s'impliquer dans la communauté, pas seulement à court terme, mais aussi à long terme. Fin de citation. Bien au fait des enjeux mondiaux, le jeune philanthrope évoque les changements climatiques, les catastrophes naturelles, la crise de l'eau, les inégalités. Citation. D'ici 2050, les scientifiques prévoient qu'il y aura plus de 200 millions de réfugiés climatiques. Malheureusement, quand je parle de ça avec les plus vieux, on me répond que, de toute façon, ils ne seront plus là. C'est aux nouvelles générations de trouver des solutions. Fin de citation. Dénicher les philanthropes de demain. Il estime que les événements des JPQ, comme le bal, sont un bel outil pour attirer les jeunes en philanthropie. Citation. Il faut ensuite aller plus loin. On annoncera bientôt notre première conférence éducative avec un panel d'invités inspirants. On aura aussi un cercle des gouverneurs qui offrira du mentorat et du partage de connaissances. Fin de citation. William Plamondon avoue qu'il est parfois difficile de donner de l'argent à des causes ou des organismes au début de sa carrière, surtout si on a un prêt étudiant à rembourser. Citation. C'est pour cette raison qu'on est en train de bâtir un projet de recrutement de bénévoles qui trouvera le meilleur organisme pour les bénévoles selon leurs compétences et leur capacité à s'impliquer. On peut toujours donner du temps. Ça aussi, c'est très important. Fin de citation. C'était « Jeunes, privilégiés et philanthropes », un texte d'Émilie Laperrière, paru le 13 novembre 2024 dans La Presse.
Comment rendre les parcs de Vancouver plus inclusifs? Un texte de Suzanne Linhart, paru le 24 septembre 2024, dans La Source. Avec plus de 250 parcs et espaces naturels, la ville de Vancouver offre un cadre de vie que beaucoup envient. Pourtant, cet accès privilégié à la nature n'est pas évident pour tous ses habitants, et plusieurs rapports récents montrent que l'inclusivité des parcs a encore du chemin à faire. 400 hectares de forêt en plein cœur du centre-ville. Stanley Park, l'un des plus grands parcs urbains de l'Amérique du Nord, est la vitrine de Vancouver. Avec ses plages et ses cèdres rouges centenaires, il attire des millions de visiteurs par an. Mais cette proximité avec la nature n'est pas évidente pour tous les Vancouverois. Si les bienfaits sur la santé physique et mentale ne sont plus à démontrer, des obstacles persistent dans l'accès aux parcs urbains, notamment pour les plus démunis. Emmenés hors des murs du Downtown East Side. L'accessibilité des parcs peut se mesurer par des faits concrets, comme la proximité entre son logement et un parc, les horaires d'ouverture, le stationnement alentour ou encore les aménagements disponibles. Mais franchir les portes d'un parc n'est pas aussi simple et il existe des barrières mentales. La Boussole, le centre communautaire et social francophone de Vancouver, multiplie les randonnées et les ateliers dans les parcs en saison estivale. L'objectif est d'emmener les bénéficiaires et bénévoles hors des murs du quartier très bétonné de Downtown East Side, souligne la directrice des opérations, Nathalie Astruc. Situé à l'est du centre-ville de Vancouver, ce quartier concentre plusieurs enjeux liés au logement, à la pauvreté et aux dépendances. Le 19 septembre dernier, la directrice des opérations s'est rendue en binôme à Montréal pour intervenir sur la thématique de l'inclusion des personnes en précarité dans les parcs urbains lors du Forum national des Amis des parcs. Pour des personnes en situation de précarité, le besoin d'aller au parc n'est pas une priorité face à celui de se loger et de se nourrir. Mais il est aussi question de légitimité, notamment pour les personnes en itinérance. Ce qui n'est pas dit, mais qui se perçoit, ce sont les réticences à se rendre dans un parc et y rester. Dans le quartier, il y a eu un traumatisme après les évacuations violentes de Crab Park, souffle la directrice. En mars dernier, une opération de nettoyage conduite par la ville de Vancouver avait contraint les résidents des campements du parc à se débarrasser de leurs affaires personnelles dans un laps de temps très réduit. Malgré ses réticences, elle évoque les retours positifs des participants lors de la fête de la Saint-Jean-Baptiste que la boussole a tenue le 24 juin dernier au parc Strathcona. On veut vraiment explorer les activités dans la nature pour que notre public n'ait plus de freins et qu'il bénéficie de l'espace public, pose Nathalie Astruc, qui rêverait de pouvoir organiser des sorties en nature à l'extérieur de Vancouver. Adapter les parcs aux situations d'itinérance. Pour pouvoir proposer une activité dans un parc, il faut payer un permis à la ville de Vancouver. Lors de la Saint-Jean-Baptiste, cela correspondait à environ 200 $, soit 30 % du budget de l'atelier pour la boussole. Grâce à un récent partenariat, c'est les Amis des parcs qui l'a financé. Le réseau national vise à bâtir des liens entre les communautés et soutenir l'existence des parcs urbains dans tout le pays. Chaque année, ils produisent un rapport sur les parcs dans les villes canadiennes en interrogeant un nombre important d'usagers et d'employés municipaux chargés de la gestion des parcs. Dans le dernier rapport publié en novembre 2023, il pousse les décideurs à adopter des stratégies fondées sur les droits des personnes en itinérance. On travaille dur sur ce sujet de l'inclusivité parce qu'on sait le bénéfice des parcs sur la santé mentale et physique. C'est pour ça qu'on engage de nouveaux partenariats comme celui avec la boussole, appuie Mash Saleh Omoum, gestionnaire de programme pour les Amis des parcs à Vancouver. Le prochain en date est avec le Yarrow Intergenerational Society for Justice à Chinatown, qui met en contact les jeunes et les plus âgés afin d'atténuer les barrières culturelles liées à l'accès aux services publics. C'était « Comment rendre les parcs de Vancouver plus inclusifs », un texte de Suzanne Lienhardt, paru le 24 septembre 2024 dans La Source.